Un, deux, un, deux. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
C'est pas moi qui ai choisi Beethoven, c'est... Je dirais plutôt que c'est Beethoven qui m'a choisi. Et que j'ai répondu à l'appel.
Il n'y a pas que Jean-Luc Godard qui répond à l'appel. 21h sur France Culture, vous passez par Continent Musique. Intégrale Beethoven ce soir avec François-Frédéric Guy, Teddy Papavrami et Xavier Philips. Tous les trois, ils sont installés derrière moi dans le studio. Et à l'honneur à la Philharmonie de Paris où vous vous produisez, et ceci au moment de l'ouverture de l'exposition Le Mythe Beethoven, une exposition qui d'ailleurs durera jusqu'au 22 janvier. Nous irons voir et entendre dans cette exposition une pièce particulière qui s'appelle Silence en Mi majeur, conçu par Samuel Aden, preuve que l'on n'écoute pas qu'avec ses tympans. Et puis, il y aura une autre visite et ce sera dans l'atelier d'une archetière, Sandrine Raffin, installée rue de Rome à Paris, dans les quartiers des Luthiers. On parlera bois de Pernambouc et différence entre crin blanc et crin gris, c'est très important. Et puis, nos invités ont chacun choisi quelques versions importantes d'œuvres de Beethoven dans nos archives de la discothèque de Radio France. Mais avant d'écouter des disques, entendez la musique jouée directement pour vous dans les studios de France Culture. François-Frédéric Guy est au piano, Teddy Papavrami au violon et Xavier Philips au violoncelle. Et c'est le premier mouvement du trio Les Esprits de Ludwig von Beethoven. Premier mouvement du trio Les Esprits de Ludwig van Beethoven, interprété dans les studios de France Culture. Merci à vous messieurs, avec au piano François-Frédéric Guy qui nous rejoint à la table, au violon Teddy Papavrami et Xavier Phillips au violoncelle. Vous voici à l'affiche de la programmation des concerts de la Philharmonie de Paris dans une série de concerts donnés à l'occasion de cette exposition Le Mythe Beethoven. Et puis on pourra vous entendre tous les trois en concert, ce sera en mars 2017 au Théâtre des Champs-Élysées. Mais là, cette fois-ci, ce sera pour un répertoire différent. Ce sera Mendelssohn, Janáček et Schumann. Et puis pour les disques, si les deux auditeurs veulent vous entendre, je vous renvoie évidemment à vos enregistrements respectifs. Il y a déjà, sont parus les 32 sonates pour piano. Ça, c'est avec vous, François-Frédéric Guy, chez ces Zigzag Territoires. Vous avez aussi gravé ensemble avec Xavier Phillips les œuvres pour piano et violoncelle. Et puis, vous enregistrerez prochainement, François-Frédéric Guy, avec Teddy Papavrami.
Absolument, nous allons continuer le périple beethovenien, la grande croisière beethovenienne avec les 10 sonates. Nous avons enregistré dans quelques semaines maintenant et pour une parution en octobre prochain.
Le trio avec piano numéro 5 qu'on vient d'entendre de Beethoven. Et je voudrais revenir sur l'appellation de Geister Trio, de trio des esprits. D'où est-ce que ça vient cette appellation?
Alors, esprit ou alors fantôme, réminiscence, c'est surtout en fait le deuxième mouvement qui donne son caractère à cette appellation, parce que c'est un épisode beethovenien tout à fait fantomatique,
oui,
un peu inquiétant.
Ce qu'on vient d'entendre là, c'était pas très fantomatique.
Non, ça c'est vraiment un élan vital, comme Beethoven sait le faire, un rythme, une mélodie très facile à retenir, c'est un peu ses secrets, hein, et puis une vitalité entre les instruments. Mais tout d'un coup, dans le deuxième mouvement, il se passe quelque chose de particulier, tout d'un coup, toute la musique change, on peut plus vraiment de la dater, on ne sait plus de quelle époque elle a été écrite, et c'est vraiment extraordinaire. Il y a des moments, oui, on a l'impression de fantôme, c'est comme, un peu comme si on avait une conscience qui nous parlait à l'intérieur de nous, à chaque fois qu'on joue quelque chose, une petite voix qui nous dise quelque chose, voilà, qu'il faudrait transmettre justement à l'auditeur.
Xavier Phillips, vous avez ce sentiment parfois d'une petite voix intérieure qui serait contenue dans une œuvre, notamment chez Beethoven?
Une petite voix en moi, oui, certainement, qui me dit va-t'en vite. Mais non, je plaisante. Je pense qu'effectivement, ce deuxième mouvement du Geister est hors du temps. Et il a finalement assez peu de. Il est assez peu relié à ce qu'on peut entendre dans le premier mouvement que vous venez d'entendre, qui est d'une vigueur, d'une force. C'est très organique. C'est effectivement très beethovenien dans ce qu'on peut imaginer de Beethoven, colérique, passionné,
qui aime le vin,
voilà. Et le rythme avant tout.
Voilà le rythme, le rythmicien. Le deuxième mouvement, lui, est vraiment une chose à part. C'est-à-dire que on a l'impression que le temps suspend son vol, que on est nous-mêmes les musiciens à cordes suspendues à nos archets, parce que à l'affût du moindre craquement, parce que ce qu'il demande dans son tempo, qui est extrêmement lent, c'est un largo, on sent que le temps s'étire comme ça. C'est finalement des moments qu'il y a dans certaines pièces beethoveniennes, je pense au Quatuor aussi. J'avais justement proposé un mouvement, je ne vais pas dévoiler
tout de suite, on va l'entendre,
on l'entendra plus tard, mais ça fait partie de ces moments comme ça, suspendus, incroyables, qui demandent une véritable, c'est une petite prouesse.
Une abstraction, il y a
côté abstraction
aussi, ça c'est nouveau, c'est plus seulement un beau mouvement même qui exprime des sentiments, mais il y a une abstraction, quelquefois ça n'exprime rien, c'est plutôt une couleur, un vide, un gris, quelque chose.
Alors, plus concrètement, je voudrais parler de votre trio, puisque ce trio des esprits, vous l'avez déjà joué ensemble cet été au Festival des Musicales, c'était dans le Jura, et un critique, Christian Merlin, pour ne pas le nommer, saluait votre équipe soudée, voilà, votre cohésion à vous trois, alors qu'il craignait contre trois solistes d'excellence avec des personnalités très contrastées, la cohésion ou l'entente soit difficile. Comment est-ce qu'on passe de soliste à membre d'un trio ?
Après, il faut aussi dire une chose, c'est que c'est moins difficile de former un trio avec piano que de former un quatuor à cordes, par exemple.
Ah.
Il y a un quatuor à cordes, c'est une véritable, une énorme exigence. Et je peux le dire parce que je fais les deux et que j'ai fait beaucoup de trios, j'ai fait beaucoup de répertoires de trios avec piano, avec différents.
C'est-à-dire quand il y a un pianiste, il fait la colonne vertébrale et puis.
Mais c'est pas ça, c'est que déjà vous avez deux cordes opposées entre guillemets au piano. Donc déjà il y a pas nécessairement ces deux tessitures différentes, le violon et le violoncelle. Ça se marie avec bonheur. Il faut quand même, évidemment, il y a des petites choses à travailler, mais ça n'est pas on n'a pas besoin de chercher désespérément, voilà, un son commun comme ça peut être le cas dans un quatuor où là on peut s'arracher les cheveux littéralement pour trouver déjà une intonation, pour trouver un son de quatuor. On parle de l'instrument quatuor, on peut pas parler véritablement d'un instrument trio avec piano.
Un peu comme on pourrait dire pour certains grands orchestres où on dit ah oui, c'est le son du Philharmonique de Berlin, c'est le son de tel orchestre.
Après,
parce qu'ils arrivent à trouver cette alchimie.
On peut reconnaître des individualités.
Pour les quatuors,
on écoute David Oistrakh jouer, on va reconnaître immanquablement sa sonorité. On peut reconnaître aussi, il y a des trios très célèbres de grandes personnalités, de grands solistes comme Cortot, Thibaut Casals. Et puis il y a des entités, on va dire, de trios comme le Beaux-Arts Trio, le Trio Wanderer aussi, qui est un excellent trio. En fait, les deux sont possibles. C'est une formation de musique de chambre qui laisse cet aménagement possible, et sans pour autant que, j'imagine, les trios constitués froncent le nez lorsque trois solistes, entre guillemets, comme nous, s'aventurent à faire du trio avec piano. Je pense que c'est une chose qui n'est pas pour autant facile, mais qui est du domaine du possible.
Puisque vous le mentionniez, on a très envie d'entendre un quatuor, du coup, pour voir comment c'est, quand ça fonctionne très bien.
Comme je vous ai amené la chose.
C'est vous qui faites des transitions.
Un velours.
Non, mais en fait, je vous suis. On va écouter. Vous avez choisi le quatuor Alban Berg.
Je vous dirai pourquoi après.
Ah, on écoute d'abord, et puis on écoute et puis on parle après. Alors, c'est le deuxième mouvement du 8e quatuor, opus 59, par le quatuor Alban Berg. Et ça, c'était dans les archives vinyles, c'est dans ce coffret EMI qui était paru en 79.
tellement mieux que le CD.
Et donc, c'est le disque vinyle qui tourne sur la platine, un extrait donc du deuxième mouvement du 8e quatuor de Beethoven, interprété par le quatuor Alban Berg. Je donne leurs noms, Gunther Pichler, Gerhard Schulz, Atto Beyerle et enfin Valentin Erben au violoncelle. C'était l'autre membre fixe de ce quatuor autrichien qui s'est séparé en 2008, près de plus de 40 ans de carrière pour le quatuor Berg. Alors, ce deuxième mouvement, qui, dont la douceur a séduit tout le monde dans le studio, j'imagine que c'est la même chose pour les auditeurs, Beethoven indique sur la partition, il faut jouer cette pièce
avec beaucoup de sentiment.
Voilà.
Si tratta di questo peso di questo sentimento. Je ne sais plus comment on dit en italien, mais oui, mais c'est en fait c'est une précaution bien superflue parce que en jouant cette musique, on ne peut pas faire abstraction du sentiment. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai choisi cette version, non pas parce que c'est ma préférée, mais parce que, en fait, je suis pas forcément en accord. Ma sensibilité n'est pas forcément en accord avec tout ce que j'entends.
Ah ben.
En fait, ce qui est intéressant, c'est la musique. Et que ce genre de pièce, ce deuxième mouvement, est d'une telle perfection que, en fait, tout ce dont on a besoin, c'est d'un instrument, ce fameux instrument quatuor dont je parlais, qui est bien réglé, entre guillemets, et qui propose quelque chose qui soit tout simplement en adéquation avec la pensée beethovenienne. De suivre ce fil, il n'y a rien à faire, en fait. Rien d'autre à faire. Et c'est déjà d'une terrible difficulté. C'est pour ça que je salue bien évidemment cette version.
Gravé en 78.
Il ne s'agit absolument pas d'une critique de ma part, je ne me permettrai pas. Mais nous autres musiciens, on a tous nos sensibilités. Voilà. Je travaille moi aussi le quatuor, je ressens fatalement les choses autrement, mais quand on joue une chose comme ça, on est tout simplement terrassé par la musique. On ne se pose pas la question de se dire, tiens, comment est-ce que je vais interpréter ça? C'est comment est-ce que je vais faire en sorte de pouvoir faire tout entendre.
De me mettre au service.
Voilà, et de me mettre au service, voilà. Là, de toute façon, la question ne se pose même pas. Puisque, comme avec Bach, on est totalement terrassé par l'ampleur du génie compositeur que l'on joue, tout simplement.
Alors, Teddy Papavrami, vous racontiez, puisque vous venez de mentionner Bach, je rebondis une fois de plus. Merci, Xavier Philippe.
C'est incroyable. Et pourtant, les gens vont se dire, c'est préparé. Mais pas du tout.
Pas du tout. Teddy Papavrami, vous racontiez dans votre livre Fugue pour violoncelle, qui était paru chez Robert Laffont, que, à propos de Bach, justement, votre père avait glissé ce mot dans une de vos partitions. Courage. Console-toi avec Bach. Quelle place a tenu, si on comprend du coup la place qu'a pu tenir Bach de consolation, quelle place a pu tenir Beethoven dans votre formation de musicien ?
Alors, enfant, en Albanie, je n'avais pas une grande sympathie pour Beethoven parce qu'on nous le présentait comme un compositeur révolutionnaire et donc qui aurait été un précurseur du communisme et quelque chose dans ce goût-là. Alors, du coup, je l'associe à quelque chose d'un petit peu officiel qui me... Mais quand même, après, j'ai notamment... Moi, c'était beaucoup par le biais des sonates, en fait, pour piano. Quand j'ai écouté les dernières sonates, là, je suis devenu complètement épris de cette musique. Et voilà, ça se situe tout en haut, comme disait...
Il connaît par cœur l'opus 111. Je peux le certifier, chaque note.
Mais voilà, je regrette, je ne pourrai jamais la jouer. Mais cela dit, par rapport à ce que disait Xavier, c'est quand même curieux, parce que je suis entièrement d'accord que c'est une musique où on laisse jouer, enfin on est là pour la servir, alors que Beethoven lui-même a marqué avec du sentiment, alors que nous ça nous paraît justement superflu d'une certaine façon. Alors est-ce que les musiciens d'époque de Beethoven avaient une interprétation très différente? Parce que nous on a l'impression, au contraire, il faudrait un peu retenir, enfin disons ne pas outrer les choses.
Peut-être qu'ils ne sont pas accablés du poids qu'on a aujourd'hui la figure de Beethoven, qui pour les enfants est très lourd.
Et il faut aussi ajouter qu'à l'époque de Beethoven, les trois quarts, sinon les 9/10 des musiciens étaient des amateurs. Et oui, donc ils arrivaient chez l'un, chez l'autre, ils commençaient à regarder la partition, ils avaient du mal à lire parce que c'était pour l'époque une musique extraordinairement difficile à jouer. Oui. Donc souvent, alors peut-être que Beethoven a entendu, a eu besoin de dire, bah écoutez, là, il faut vraiment mettre tout ce que vous avez.
Il a dû avoir des trucs super secs, pauvres.
Voilà.
Quelquefois, c'est des choses,
s'il vous plaît.
Voilà, quelquefois, c'est des choses aussi simples que ça. Hein, c'est peut-être pour ça.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener dans cette exposition Le Mythe Beethoven qui ouvre ce week-end.
Alors pas encore, mais j'ai très envie d'y aller, évidemment.
Ça ouvre là à la Philharmonie de Paris et on y voit parmi tous les aspects de Beethoven la fétichisation totale du compositeur. Hein. On voit des partitions, mais des objets vraiment personnels, un peu triviaux. Hein. On voit sa canne, ses cornets pour écouter. Il y a même une cuillère en argent.
Les cornets, c'est très émouvant. Je les avais vus à la Beethoven House de Bonn. C'est très émouvant, sachant qu'il a été sourd à l'âge de 30 ans, et que, donc, c'est-à-dire une grande partie de sa vie et la plupart de sa période, grande période créatrice, il était sourd, pas seulement pour les dernières œuvres. Et on imagine, quand on voit ces instruments qui ont l'air d'instruments de torture, en fait, hein, on imagine qu'en fait, même avec ça, il n'entendait rien, et que ça devait être une souffrance indicible, et il se coupait définitivement du monde extérieur, ce qui lui a peut-être permis, par contre, de s'élever au-dessus de la musique de son époque et de construire une musique jamais entendue avant lui. Et c'est peut-être cette maladie, paradoxalement, qui a accentué le côté visionnaire et totalement, le fait qu'il ait écrit la musique avec l'histoire de la musique avec un grand H, quoi.
Oui, et puis sa surdité participe aussi certainement à la construction du mythe.
Du mythe aussi, voilà. Oui.
C'est ce que souligne. Il y a une citation de Roland Barthes qui est inscrite en grand dans l'exposition. Beethoven est produit comme un héros complet doté d'un discours, fait rare pour un musicien, d'une légende, il y a une bonne dizaine d'anecdotes que tout le monde connaît, d'une iconographie, d'une race, qui serait celle des titans, Michel-Ange et Balzac, et d'un mal fatal, la surdité. Alors, plutôt que
pour un musicien, en plus.
Justement, puisque vous parlez de la surdité, sachez que dans cette exposition, quand vous irez vous promener, il y a une pièce qu'il vous faut aller voir, Silence en mi majeur. Une installation où on est tenté de regarder à travers les trous des yeux de quatre visages qui sont découpés en fait dans un mur, dans un monolithe noir. Et pour regarder dans ces petits trous, il faut approcher le visage du mur, se boucher les oreilles et on entre à ce moment-là en contact avec des petites barres métalliques, des petits obstacles qui sont posés à côté. Et la musique, vous allez l'entendre de l'intérieur. Rencontre avec une visiteuse, c'est Mercedes, et rencontre avec son concepteur, Samuel Aden.
Oui, parce que ça a été incroyable. Je m'ai approchée et comme vous disiez, je
bouchais
mes oreilles et j'ai pu entendre la musique et la vibration de la musique. Et ça a été incroyable. C'est une expérience fascinant.
Alors, il se trouve que celui qui a conçu cette installation est en face de vous. C'est Samuel Aden.
Waouh ! Félicitations ! Non, c'est fascinant. J'ai vraiment adoré.
Mais alors, j'ai une question. Qu'est-ce que tu as ressenti concrètement comparé à une écoute traditionnelle ?
Et comparé à une écoute traditionnelle, normalement, on entend tout parce que. Bref, on ne peut pas choisir ce qu'on entend et ce qu'on n'entendra pas. Mais dans ces cas-là, quand tu bouges tes oreilles, tu entends de l'intérieur. Donc c'est une chose que tu ne te sens pas, que ça vient de l'extérieur. C'est comme si ça vient de toi-même.
Qu'est-ce qui se passe? Mercedes l'a très bien résumé. C'est une écoute intérieure. C'est une écoute, on appelle ça de l'écoute solidienne. Et l'écoute solidienne, c'est une manière de percevoir des vibrations, là en l'occurrence c'est une mélodie, via l'oreille interne sans passer par l'oreille externe. Du coup on se bouche les oreilles pour pouvoir percevoir la mélodie et les fréquences et tous les paramètres musicaux, pour pouvoir se couper de notre environnement et de notre paysage sonore. Là par exemple on a la pastorale qui joue à fond, juste à côté. Et du coup par résonance de notre squelette, on perçoit les vibrations qui sont transmises directement à l'oreille interne.
Alors Samuel Aden, comment est-ce qu'il faut vous présenter? Est-ce que c'est plasticien, designer?
On a le droit de mettre des veto,
oui.
Des jokers. En fait, c'est très complexe cette question, parce qu'il y a des jours où je me sens luthier, quand je travaille là-dessus, d'autres jours ergonome, des fois électricien, des fois ingénieur en mécanique de précision. Et pendant des années, je me suis posé la question de ce que j'ai fait une formation de design d'objets aux Arts Décoratifs de Paris. Et pendant des années, j'ai essayé de me définir, savoir ce que je faisais. En fait, ça me fait mal à la tête d'essayer de me mettre dans une case. Du coup, on va dire plasticien, parce que je suis à la Maison des Artistes.
Alors pour donner une piste, c'est pas du tout la première fois que vous travaillez sur ces rapports entre vibration et son, puisqu'il y a certaines de vos pièces, Screen Mirror, où il s'agissait de regarder le son. Vous pouvez aussi toucher le son avec Tactile Sound. À partir de quel moment est-ce que, et avec quelle pièce, Samuel Haden, est-ce que vous commencez à travailler sur cette question de la vibration, du son et du fait d'écouter peut-être autrement qu'avec notre tympan? J'ai pu voir dans un de vos catalogues, il y avait une pièce, le dentaphone, qui date de 1880. Qu'est-ce que c'était que ce dentaphone?
C'est vraiment pas loin de ce qui se passe ici et le phénomène que vous avez pu expérimenter en face de cette pièce qui s'appelle Silence en mi majeur. C'est une sorte de capteur de vibration. En fait, d'un côté, on a le récepteur. En fait, on pourrait faire l'expérimentation parce que c'est assez fou. Si les tiges en laiton là, qui dépassent du monolithe, vous les croquez avec vos dents, on arrive à apercevoir tout le spectre sonore de la mélodie qui est diffusée. Et le dentophone, c'était ça.
Qu'est-ce qu'on entend dans ce silence en mi majeur, dans votre pièce, Samuel Haden? Quelle est la musique qu'on entend? Alors, on comprend bien par la vibration, mais quelle est la musique, la source qu'on entend au départ?
La source, c'est une sonate pour piano de Beethoven, qui est la sonate numéro 30, opus 109, troisième mouvement, en mi majeur. Ce qu'on entend, c'est un piano forte qui vient du musée de la musique. Il me semble que c'est un Joseph Brodmann de 1826, il me semble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un des seuls défis avec les équipes de la Philharmonie. C'était de se dire comment faire écouter une sonate de Beethoven qu'il a composée après qu'il soit devenu solo.
On entendait la voix du plasticien et designer Samuel Haden. Il faut aller voir et entendre, mais donc pas avec les tympans, uniquement par la résonance intérieure, cette installation Silence en mi majeur qui est au cœur de cette exposition dédiée au mythe Beethoven à la Philharmonie de Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette possibilité de ne pas entendre, et notamment pour les personnes malentendantes, de pouvoir recevoir la musique en fait par la vibration?
Je suis très curieux d'essayer. Après, c'est vrai qu'au violon, nous avons peut-être, sans bien nous en rendre compte, un peu ça, puisqu'on a quand même le menton qui est appuyé sur l'instrument. Et peut-être que ça... Je n'avais jamais pensé à vraiment dissocier. Sans doute que ça doit faire partie de notre écoute.
Alors, émission Beethoven puissance 3, avec vous trois, puisque chacun travaillait individuellement et en soi et ensemble le répertoire de Ludwig van. Un retour sur une voix qu'on entendait comme ça au début de l'émission, c'était Jean-Luc Godard.
Ça, je sais pas. C'est de la musique d'autrefois.
Je peux la mettre?
Oui, si t'es gentil.
Oui.
Un extrait du film Une femme mariée de Jean-Luc Godard avec Macha Merrill. C'était en 64. Et la musique d'autrefois, c'est celle de Beethoven. Andante con molto quasi allegretto, celle du Quatuor. Opus 59, encore. La musique de Beethoven, elle tient une part importante dans l'œuvre du cinéaste. Philippe Cassard sur France Musique avait consacré une émission entière à Beethoven chez Godard. J'imagine que tous vous êtes sensibles à l'utilisation de la musique quand vous allez au cinéma, quand vous regardez un film. Vous avez des souvenirs d'utilisation de Beethoven ou d'autres musiques qui vous auraient particulièrement marqué ou déçu, oui, peut-être?
Bah, c'est-à-dire que c'est épineux parce que, bien évidemment,
Xavier Philips.
L'utilisation de musique classique, musique ultra connue dans le cinéma, c'est, je connais pas beaucoup de cinéastes qui s'y sont frottés et qui s'y sont frottés avec bonheur. Alors, évidemment, il y a l'exemple de Kubrick. Oui. Évidemment, on parlait de Orange Mécanique avec la 9e, qui mettait en avant un côté, on va dire un peu, mais dont on peut parler aussi, un côté un peu sombre de Beethoven, avec un
lecture,
emploi.
Lecture, chaque fois oui, qu'il venait de tuer quelqu'un, voilà. Il rentrait chez lui pour écouter la 9e symphonie de Beethoven, voilà, à fond.
Et on parle d'hyperviolence, on parle d'hyperviolence dans le film, et on parle de Ludwig van, renforcé par la musique aussi de Oscar...
De Walter Carlos.
Wendy
Carlos.
D'accord. Et, mais il y a aussi, évidemment, Barry Lyndon.
Teddy Papavrami.
D'ailleurs, dans Barry Lyndon, c'est assez intéressant parce qu'il reprend le thème du deuxième mouvement du trio à la toute fin du film, en fait. Et c'est très subtil parce qu'il reprend vraiment cette espèce de coda avec une espèce de modulation, enfin une hésitation comme ça. Et en fait, c'est au moment où, en fait, la veuve, enfin pas veuve parce qu'il n'est pas mort, mais il est estropié, oui, le héros, est en train de signer. Et au moment où elle signe le chèque, enfin pour le faire vivre comme ça, c'est là qu'il y a... Donc il y a le thème et il y a cette espèce de modulation et puis son fils, à ce moment-là, la pousse à signer effectivement. Et puis on sent, enfin en gros, il a regagné sa mère et voilà, enfin, chasser l'intrus. Et c'est très subtilement fait parce que l'intonation harmonique avec cette espèce de revirement en fin... Parfaitement, donc effectivement, ça
revient. Oui, c'est tout à fait vrai.
Alors, petit détour dans des ateliers, cette fois-ci, du côté de la fabrique, ceux de Sandrine Raffin, qui est maître artisan en métier d'art. Elle est installée au 68 rue de Rome à Paris. C'est le quartier des Luthiers, hein, près de l'ancien conservatoire, qui était rue de Madrid. Sandrine Raffin crée, répare, restaure les archets des violonistes et des violoncellistes, amateurs ou grands solistes, notamment Renaud Capuçon ou les membres du Quatuor Ébène. Un archet de violon, je l'ai appris en faisant la visite, fait toujours 73 cm et environ 60 grammes, mais dans la fabrication de ces archets, des siècles de savoir-faire, de gestes, de métiers qui sont en jeu à chaque fois, Sandrine Raffin nous fait la visite de son atelier.
Alors on va travailler avec du bois exotique, du bois de Pernambouc pour la baguette, donc c'est un bois qui vient du Brésil. Pour la hausse, on va avoir de l'ébène de Madagascar. Ensuite, la hausse, donc c'est la partie inférieure de l'archet, là où le musicien pose ses doigts, en fait. Ensuite, on va travailler d'autres matériaux comme la nacre, l'argent, le crâne cheval.
Alors Sandrine Raffin, on est ici au 68 rue de Rome. Et pour ceux qui feraient la promenade à Paris, c'est le quartier des Luthiers. Depuis quand est-ce que vous êtes installée ici? Je crois qu'au départ, en fait, c'est une entreprise familiale.
Voilà, alors donc moi j'ai rejoint l'atelier familial dans les années 90 et après 17 ans en fait aux côtés de mon père, on a décidé donc de racheter l'entreprise et en février ça fera 10 ans que l'atelier est en notre nom. C'est vrai que jusqu'à ma génération c'était toujours transmission, souvent de père-fils, fille, c'était un peu moins commun. Et c'est vrai que même les gens qui sortaient de différents ateliers étaient toujours donc du milieu. Et c'est quelque chose que j'ai voulu un petit peu changer en accueillant des gens qui soient pas forcément luthiers, qui soient autodidactes ou de différentes nationalités pour ouvrir vraiment ce côté d'ouverture d'esprit et de partage des cultures.
À quelle étape est-ce qu'on assiste ici, Sandrine Raffin?
Alors là, on utilise en fait la lime. On est en train de fabriquer un archet de violoncelle et on s'occupe de faire la plaque de tête, d'ajuster la plaque de tête sur la tête en Pernambouc.
Un archet de violoncelle, un archet de violon, c'est à peu près la même chose si vous travaillez pour un musicien classique ou si vous travaillez pour un musicien qui vient du jazz. Fondamentalement, l'archet, c'est un peu le même ou pas du tout ?
À la base, effectivement, l'archet, c'est le même. Maintenant, en termes de résultats, on va avoir peut-être besoin d'un archet plus réactif pour un musicien qui va jouer en jazz ou en rock. La subtilité va plutôt se faire au niveau du reméchage, c'est-à-dire qu'on remèche là avec du crin naturellement blanc. Pour le jazz et le rock, on va mettre du gris ou du noir. Le crin va être un peu plus solide, donc va apporter un petit peu de parasite au niveau de la pureté du son, mais comme souvent, dans certains cas, ce sont des instruments amplifiés, ce qui va avoir besoin, en fait, ça va être l'accroche. Alors, si vous voulez, nous allons pouvoir descendre au salon d'essayage, et je vous présenterai aussi la cave, la caverne d'Ali Baba. C'est là où, en fait, on va stocker tout notre bois.
Je vous suis. Allez-y.
Donc là, c'est le salon d'essayage, là où les musiciens, en fait, essayent nos archets. Quand ils viennent, ils ont souvent une demande qui n'est pas toujours facile à exprimer pour eux. C'est tout simplement, bon voilà, mon archet ne me convient plus, j'ai besoin d'un nouvel archet.
Il faut trouver les mots, parce qu'on dit souvent que les luthiers sont un peu les psys des violonistes. C'est la même chose pour l'archetière, il faut qu'ils trouvent les bons mots, et ils ont pas toujours les mots, en fait, pour dire ce qui va pas.
Les mots sont pas toujours, en termes techniques, les mots qu'on va utiliser, mais certaines personnes vont parler de couleurs, de pattes sonores, en disant, voilà, j'ai un archet, le son est pas assez chaud, trop brillant, trop acide. Donc, en fait, ça va être à nous, en apportant des différents archets, de voir quel vocabulaire ils vont mettre dessus, et puis on va pouvoir comme ça ajuster, savoir s'il faut un archet plus souple, avec une différente balance, voilà, on va ajuster tout ça. Alors là, il n'y a pas beaucoup de place, mais on se faufile en fait entre les blocs de bois, donc on reçoit en fait tout simplement les planches de Pernambouc en billes qui sont débitées en grosses planches, et ensuite je vais donc choisir les planches et dans la pièce que je vous montrerai tout à l'heure, il y a une grosse scie à ruban et je vais les tailler là en baguette. Ce qui se passe dans la fabrication, à la base, la baguette est plate et on va la cambrer à chaud. Donc forcément, il va y avoir ce qu'on appelle la mémoire des matériaux, c'est-à-dire que certaines baguettes vont avoir tendance à remonter, se décambrer. Le bois vit tout le temps, donc on a des baguettes qui, tous les 6 mois, tous les 2 ans, tous les 5 ans, vont tourner un petit peu. Ce qui est important en fabrication, c'est d'utiliser un bois ultra sec, donc celui qu'on va utiliser à plus de 25 ans. Maintenant, on le voit sur les archets de fabrication asiatique, le bois est vert, donc le bois arrive et la personne, au moment de changer la mèche, après 3 mois d'utilisation, la baguette tourne dans tous les sens et c'est intravaillable. Je peux vous emmener, si vous voulez, dans la salle des machines. C'est là où donc, on va raboter, on va débiter les planches de Pernambouc et là aussi on va affûter. Là, Sergio est en train d'ajuster le bouton sur la baguette, donc de faire le mamelon. Le mamelon, c'est le bout de la baguette. Et je vous montre, voilà, cette partie-là. Donc, c'est au bout du bouton, on va avoir un petit trou qui va s'emboîter parfaitement sur le bout de la baguette.
D'accord. Et c'est là qu'on tourne et qu'on va régler la tension du crin.
Voilà, on tourne le bouton et avec un système de vis et écrou qui va permettre en fait à la housse de reculer et de tendre le crin et donc de faire la tension.
Il y a des programmes parfois qui font frémir l'archetière, qui vous inquiètent ou vous vous dites oh, « là, ça va être très difficile pour le violoncelliste ou pour le violoniste ». Il y a des passages qui sont particulièrement ardus et qui vous font frémir, vous, Sandrine Raffin, l'archetière.
C'est vrai qu'avec certains solistes, quand on a des mèches justement à faire et on sait que les solistes vont jouer le soir même une prestation assez difficile, j'ai mis beaucoup de temps en fait quand je vais au concert avant d'apprécier l'œuvre musicale parce que j'étais complètement focalisée sur mes cales, sur mes ajustages. Donc je prenais vraiment aucun plaisir, j'étais en plein stress en voyant la baguette qui sautait d'une corde à l'autre et... Avec le temps, doucement, doucement, je commence à prendre plaisir. Mais ça reste quand même quelque chose de difficile pour moi.
Voilà, c'était la visite de l'atelier de Sandrine Raffin, archetière installée au 68 rue de Rome à Paris. Pour vous donner une idée, un archet sorti de son atelier coûte entre 3500 et 5000 euros. C'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais voilà, c'est un savoir-faire que le monde entier nous envie. Puis vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec elle, Teddy Papavrami.
Oui, parce que j'allais souvent chez son père, donc je l'ai vu depuis bien longtemps. Mais vous disiez que c'est pas à la portée de tout le monde, c'est certainement vrai, mais ça n'a rien à voir avec les prix des archets anciens, qui eux peuvent atteindre 150 000 euros, voire plus si affinité. Donc ouais. C'est encore extrêmement raisonnable, l'archéterie moderne, il y a des choses formidables, et c'est très honnête, je trouve, comme prix.
Bon rappel des choses, Teddy Papavrami, et puis l'archet, c'est très important, hein, quand on joue d'un instrument à cordes, c'est presque la moitié. Vous, il y a eu une évolution qui était capitale dans votre jeu, puisque je crois que quand vous avez rencontré la violoniste Victoria Mulova, elle vous fait des remarques sur votre jeu d'archet, oui. Et puis vous allez devoir tout réapprendre.
Oui, parce que je jouais avec une tenue dite autrefois, en tout cas par Karl Flesch, un grand professeur, il a désigné ça sous le nom de manière russe. C'est une histoire de placement de la baguette sur telle ou telle phalange. Et j'avais pris l'habitude de jouer comme ça. Yasha Eifetz jouait comme ça, d'autres élèves de Auer. Et puis en fait, ça permet certaines choses, ça limite beaucoup dans d'autres choses. Enfin bref, donc j'ai dû reprendre à zéro, et puis enfin à zéro. Mais quand même, c'est très, très déstabilisant de perdre ces sensations pour en retrouver d'autres. Donc effectivement, c'est un gros travail. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait.
Alors vous mentionniez le nom de Yasha Eifetz, c'est parce que c'est le disque que vous avez choisi parmi nos archives. Vous avez demandé à entendre un enregistrement que vous n'avez pas entendu depuis 20 ans.
Oui.
Bon, on va voir ce que ça donne. Yasha Eifetz avec Toscanini, c'est le concerto pour violon en ré, l'opus 61 de Beethoven, un enregistrement de mars 1940. Vous allez me dire vers où on prend dans le premier mouvement.
Moi. Oui. Plus loin.
Alors, tout le monde est saisi par cet enregistrement, la magie opère toujours.
Ah oui, c'est incomparable. De toute façon, au niveau expressif, c'est inégalable ce que Eifetz pouvait faire. On peut parfois lui reprocher de ne pas être tout à fait dans le style, alors je craignais un peu ça. Effectivement, on a entendu quelques glissandos qu'on ne ferait plus ou pas, voilà, c'est juste magique.
Il y en a qui se permettent des glissandos à notre époque, ils sont bien pires que ça.
C'est-à-dire que les siens ne sont jamais de mauvais goût, ils sont ultra expressifs.
C'est plutôt des glissandos que je dirais connotés par rapport à une certaine époque, mais c'est des portamentos, c'est effectivement, c'est tout à fait vocal. Il y a un porté comme ça, c'est d'une telle...
Donc, Xavier Philips, vous approuvez toujours Yasha Eifetz. Voilà, pour ceux qui voudraient y retourner, cet enregistrement de Yasha Eifetz avec Arturo Toscanini, c'est un enregistrement du 11 mars 1940. Et puis, pour le disque, c'était un double disque qui était paru chez RCA, Red Seal, une réédition de 1971. Et François-Frédéric Guy, on va pouvoir écouter votre choix. Alors vous êtes allé dans le tube de Beethoven. Là. Vraiment, vous avez choisi la grande œuvre.
Disons que le tube, ça aurait été de choisir la 5e symphonie, voilà. Mais...
Il a fait son cul.
Mais enfin...
il nous a gratifié d'un peu d'ultra-violence.
J'ai voulu surtout montrer que... Là, on a entendu différentes choses, et des choses extrêmement chantées, etc. Mais là, je voudrais faire écouter le chaos de Beethoven. le chaos d'où émerge, la soupe primitive d'où émerge l'être.
Eh bien, voyons cela. C'est la 9e symphonie de Beethoven, dirigée par Otto Klemperer. François Frédéric-Guy, il faut signaler que pendant qu'on écoute cette musique, vous faites beaucoup de gestes à Xavier Philips pour parler de la force d'un basson que vous venez d'entendre.
Oui, je trouve ce début, effectivement, pour moi, c'est une soupe primitive d'où émerge la musique. En allemand, on dirait Urklang, son originel. On a l'impression au début d'un orchestre qui s'accorde, en fait. On n'entend pas de thème, on n'entend rien. Et puis de là émerge, enfin, le thème. Et puis j'ai entendu, c'est deux fois la même chose au début, et la deuxième fois, il y a un instrument très grave, le contrebasson, plus les cordes dans le grave, qui font une espèce de son qui vient de on ne sait pas où. J'imagine les gens à l'époque entendant ça, en disant qu'est-ce que c'est que cette orchestration?
Schnicksgut.
Et c'est vrai que Klemperer, c'est une interprétation assez ancienne hein, maintenant. Et
Ça, c'est avec le Philharmonia.
Oui.
Grand chef allemand. Grand chef à tout point de vue, Klemperer. Hein,
oui, immense. Et il avait la bouche un peu paralysée. Alors, il avait la bouche de côté qui lui donnait un air un peu terrifiant pour les musiciens. Et il était très autoritaire avec les musiciens. Mais les musiciens l'adoraient. Il faisait très peu de gestes. Il était très économe de ses gestes. Mais il y avait une espèce de force intérieur, et il donne tout de suite une stature, un peu sa stature, à toute musique qu'il dirige. Et ça correspond assez bien, je trouve, à la musique de ce début de la 9e symphonie, qui pour moi est la plus grande œuvre de musique jamais écrite.
Voilà. Et puis qui inspire, je le dis. Qui continue d'inspirer aujourd'hui beaucoup, y compris politiquement, parce que c'est une œuvre.
Parce que c'est une œuvre de paix. C'est contrairement à ce que Kubrick avait essayé de faire croire. Enfin, si, parce que le film Orange Mécanique. Justement, c'est un moment quand on entend le héros qui est un tueur écouter la 9e de Beethoven, c'est généralement un moment où il s'apaise après avoir massacré plusieurs personnes. Oui. Donc c'est un moment d'apaisement. Mais enfin, pour être sérieux, je dirais que c'est vrai que c'est une musique universelle et mondiale. C'est une des musiques, c'est la mondialisation de la musique avant l'heure. C'est une musique que tous les peuples, d'ailleurs on a fait des expériences là-dessus, elle a été jouée à tous les peuples, même en Papouasie, et les gens réagissent de manière, ils deviennent vraiment fous quand ils écoutent cette musique, ils ont quelque chose qui se passe, au-delà de la culture occidentale. Et c'est ça qui est intéressant avec cette œuvre. Elle parle d'une manière très spécifique.
Et c'est quelque chose qu'on voit, d'ailleurs, vous en apercevrez en entrant dans l'exposition Beethoven à la Philharmonie. On voit voilà Beethoven jouer dans le monde entier, oui, en Amérique du Sud, en Afrique, et voilà, réinterprété de façon très diverse. Bah, justement, je voudrais vous faire entendre les destinées diverses de Beethoven dans d'autres répertoires.
Take a walk along the beach tonight. I'd love to. Don't try to touch me. Don't try to touch me. 'Cause that will never happen again. Shall we dance? Tomorrow's a long way off. Maybe someday I'll have somebody's hand. Maybe somewhere someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way, and I'm gonna fall in love. But at the moment,
à ce moment, vous entendez les Shangri-Las, c'était les sœurs américaines Marie-Elisabeth Feiss, les jumelles Marguerite et Marianne Ganser. On aura reconnu, pas tout de suite, hein, le thème arrive après, la sonate au clair de lune, avec cette diction un peu adolescente en 1965. Xavier Philippe se demandait si c'était un film. Non, c'est juste un disque des Shangri-Las. Alors, séduit par cette version, cette relecture plus adolescente, plus pop, de la sonate au clair de lune, François-Frédéric Guy.
Je suis abasourdi. Et en fait, je suis désespéré. Je suis désolé de vous trouver ça désespérant.
Il est en train de changer de couleur, il faut faire quelque chose.
For Alice, Beethoven, Gershon Kingsley, un musicien allemand qui est toujours en vie et qui avait publié Music to Moog By en 1969. C'était un des premiers disques de pop à utiliser le synthétiseur Moog.
Comme quoi on peut être allemand et pas forcément respecter la musique de Beethoven. Non, c'était une blague.
Alors un autre extrait, François-Frédéric Guy, cette fois-ci par les Anglais de Deep Purple. Un groupe que vous appréciez, Deep Purple?
Ah, c'est du très bon, c'est les pères du hard rock, oui.
Bon, alors on écoute Exposition, là c'est, vous allez voir une inspiration de la 7e symphonie de Beethoven.
Coco.
Deep Purple, leur deuxième album, The Book of Taliesin. Et la pochette de l'époque était dessinée par John Lord, le clavier. Alors là, vous appréciez l'orgue, la vitesse, la fulgurance.
Bah, c'est-à-dire qu'on sent, ce qui m'intéresse et m'intrigue, c'est qu'on sent qu'ils connaissent très bien l'œuvre. Et qu'ils aiment beaucoup l'œuvre. Et ils sont, quelque part dans leur folie, ils sont respectueux. Parce qu'on sent que c'est une espèce de, oui, un remix. Voilà, de la... ça donne aussi l'occasion de dire que Beethoven avait ses mélodies très simples, immédiatement identifiables, avec quatre cordes de guitare, on peut recréer pour l'oreille.
C'est encore une fois, ça prouve que Beethoven est universel, mais parce qu'il était absolument génial.
Et c'était un improvisateur.
Avant que tout ça n'existe, il l'avait déjà plus ou moins avant.
C'est l'inventeur du jazz, parce que c'est un improvisateur. Il improvisait pendant 20 ou 30 minutes au milieu d'un concert. C'était vraiment, il faisait une impro au piano, tout le monde s'arrêtait, il écoutait pendant 20 minutes, même si c'était pas dans la partition.
Continent Musique touche à sa fin. Merci à tous les trois. Merci François, Frédéric Guy, Teddy Papavrami, Xavier Philips d'être venus dans nos studios. On pourra vous entendre après la Philharmonie en concert au Théâtre des Champs-Élysées. Ce sera le 12 mars 2017. Je renvoie aussi à l'enregistrement Beethoven Complete Works pour violoncelle et piano. C'est paru en 2015 sous le label Evidence. Et puis l'exposition Le Mythe Beethoven a ouvert hier à la Philharmonie de Paris. Elle est ouverte jusqu'au 29 janvier 2017 et on peut y voir notamment l'installation de Samuel Aden, Silence en mi majeur. Merci aussi à l'archetière Sandrine Raffin de nous avoir reçus dans son atelier au 68 rue de Rome à Paris. C'est à vous, Pascaline Bonnet.
Et Continent Musique, c'est une émission de Mathieu Conquer, réalisée ce soir par Olivier Guérin et Vincent Deck, avec à la technique Anthony Thomasson et Pierrick Monsigny. Un grand merci à Michael Simon de la discothèque de Radio France et Sandra Escamès de l'INA. Ça continue en musique à la page de l'émission sur franceculture.fr avec toutes les dates de concerts, les références musicales, mais aussi et surtout le podcast.
Et la réécoute quand on veut sur Internet. Pour ma part, rendez-vous dans les matins de France Culture dès lundi, mais dans quelques instants, vous retrouverez Mauvais Genre et François Angelier. Alors, très bonne soirée à tous.